parle.
Ok. Moi j'ai pas envie.
Bonjour. Bonjour monsieur. Ça va depuis hier? On vous offre un café, un thé?
Oui, apparemment, oui.
Alors oui, vos tickets, mais je vais les mettre de côté. Le règlement se fait à la fin.
Ouais.
Vous avez des petits biscuits, si vous voulez. Alors, café, mesdames.
Merci.
Bonjour.
Vous préférez un thé?
Non. Volontiers du café.
Café.
Ah, c'était l'école ici.
C'est une ancienne école. C'est l'école de l'amour.
Bertrand, je suis à Paris, je suis en vacances. Au port de Montréal. Voilà.
Évoline, je suis fille d'agriculteur célèbre.
Jacques de Peretti, de la région parisienne, retraité, en vacances ici.
Moi, je suis Gisèle Marcon et je viens de Saint-Jean-du-Gard. Et je me viens balader comme Paris.
Moi, Jean-Claude, je suis du Loiret, donc 45. On sillonne les Cévennes depuis déjà une vingtaine, une quinzaine de jours. Non, quinzaine, c'est ça. Là, on est en Montvert actuellement, quand même.
Fred, j'habite à Marseille, en vacances aussi.
Simone, la femme et la mère de côté, donc je ne complète pas.
Ok. Très bien. Puis Bruno et Anne-Marie. Voilà.
Je voulais juste vous dire que oui, le reste de l'année, sur la bergerie à Montpellier, je fais partie d'un réseau qui s'appelle Racine. J'accueille donc des enfants et des adolescents. Je fais de l'accueil éducatif et social aussi, des jeunes d'ITEP. Et donc au départ de mes accueils, eh ben, j'avais fait cet itinéraire avec donc une petite échelle. Et donc les enfants, à l'aide d'un double décimètre, calculaient à peu près la distance, grosso modo. Et donc on arrive à environ 160 km.
Là-bas, à côté de Nîmes.
Bonjour, Étienne.
Voilà mes bosserons.
Voilà.
Tiens, Marie, ferme. Ferme le portail quand tout le monde sera passé.
Il y en a comme ça qui, des fois, sont bons, un petit gros feu aussi. On est tombé souvent dessus en transportant.
Est-ce qu'elle a échappé? Comment a-t-elle échappé?
Ah si. Un jour avec Dominique, on était en escalader là-haut du côté du Moctisson.
Et là, vous pouvez un peu les toucher, si vous voulez. Parce qu'après, ce sera plus possible. Quand elles vont être lâchées, on ne pourra plus s'en approcher. Là, elles sont dans l'enclos, elles sont contenues. Flore, est-ce que tu as déjà joué au jeu des sept familles, le jeu des cartes?
Oui.
Tu dis, dans telle famille, je demande la mère, etc.
Oui.
Alors, je te pose une question, je vous pose une question. Dans la famille des moutons, qui est la mère?
La brebis.
Très bien. Qui est le fils?
Fils. L'agneau.
Très bien. Qui est la fille?
La brebis.
C'est un peu compliqué. L'agneau. Agneau, agneau. Qui est le père?
Le bélier.
Parce qu'en général, tout le monde tombe dans le piège et me dit le mouton. Le mouton, on pourrait dire que c'est l'oncle célibataire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas reproduire ce mouton. Pourquoi? Parce qu'il a été castré. Castré? Je préfère que ce soit Bruno qui donne ses explications, mais bon, au niveau des testicules, on a pincé un nerf qui fait que ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc, vous allez peut-être me demander, alors à quoi il sert le mouton? Personnellement, on en a 5 ou 7 dans le troupeau, plus que 5, je crois. Ils font les beaux, les moutons, parce qu'ils sont assez hauts de taille. Ils n'ont pas les caractéristiques pour faire les béliers, dont Bruno, il ne va pas les garder pour des futurs béliers, mais quand même ils sont beaux, ils sont hauts de taille, etc. Donc on va les garder pour la transhumance, ils seront décorés et ils sont plus apprivoisés que les autres brebis. Ils vont être capables de venir manger dans la main, du grain par exemple. Donc au départ de la transhumance, ils seront les premiers en tête. Dans la croix, on dit que ce sont des meneurs, c'est-à-dire ils vont amener le troupeau, ils entraîneront la marche. Le berger est devant, dans un petit sac il a du grain, du maïs, les moutons vont manger et tout le reste suivra. Ce sont des races rustiques qui s'adaptent très bien aux milieux difficiles, que ce soit en garrigue ou après sur les estives. Voilà. La tarasconnaise n'est pas à l'origine une race rustique, mais bon, elle s'en rapproche, je dirais. Et en effet, elle a des cornes. Les béliers, par contre, de la race, n'ont jamais de cornes, vous voyez. Donc, c'est pas, ça ne veut pas dire une bête à cornes, un mâle, non. Alors, il y en a une dizaine de béliers, mais vous ne les verrez pas là. Hein. Les béliers, il faut gérer, il faut que... On ne peut pas mettre les béliers là au milieu, sinon on ne pourrait plus savoir, on pourrait plus gérer les périodes de reproduction. On dirait, on pourrait dire que les brebis, c'est comme si elles partaient un peu en colonie de vacances. Elles vont être toutes mélangées, donc il faut quand même pouvoir les reconnaître. Je pense quand même que même s'il n'y avait pas des marques, les bergers les reconnaîtraient. Mais bon, avant de partir à la montagne, on marque les brebis. Gaël, il a GM, Gaël Martin, et il a un trèfle vert. Et Nicolas, c'est NEL, Nicolas Lasalvi, et lui, je crois que c'est une étoile, je crois. On va regarder de plus près.
Te baigner?
Ah, plus tard. Oui, oui, mais ça fait des
petits. Cet après-midi, on se baignera. Là, il n'y a pas de rivière. C'est un peu chaud?
Oui.
On va enlever le cul.
Entre la partie jaune et les montagnes bleues au loin, vous avez ce massif forestier. Le Ventalon qui est le plus haut. Et cette coupe-là, le chemin qu'on voit, c'est par là qu'arrive le troupeau. De l'autre côté, donc, vous avez le col de Jalcrest. Le troupeau arrive là, ensuite la croix de Bertel. Et donc après, se trouve sur l'estive. C'est un peu flou, mais quand même, en ligne d'horizon sur la ligne plate, on distingue les deux antennes du Mont Aigoual. Mais c'est un peu trouble ce matin. C'est sur la... On voit un petit pic au loin et puis une zone plate. Le Mont Aigoual se trouve là. Tout en montant, on voyait donc les Cévennes. Et vous apercevez tout au loin là-bas de couleur jaune, les cosses. Le premier, c'est le cosse Méjean. Là, vous allez en direction de Millau. Voilà, dans ce grand territoire, cosses et Cévennes, avec les massifs granitiques au milieu, le Mont Aigoual et le Mont Lozère.
Mais elle est rêche, cette herbe, elle est dure. Hein.
Oui. Vous avez essayé d'en attraper, d'en couper?
Non. Alors on va essayer. Attends, Bruno, deux minutes, s'il te plaît.
Vous verrez comme elle est rêche et comme elle est dure.
Allez, madame, pour voir. Oui, ouais, c'est très dur.
Une herbe ouais. un peu spéciale. C'est...
Donc c'est du nard.
Du nard.
N-A-R-D
ouais. N-A-R-D, ouais. Oui.
Et c'est nous, cette... ici, dans notre langage de berger, oui. On appelle ça de la canisse.
La canisse.
Et il faut que les brebis elles aient des bonnes dents pour la manger, surtout au mois d'août, quand elle est un peu sèche et un peu dure. Hein. D'où l'intérêt d'avoir plutôt des bêtes assez jeunes. octobre, ça fait l'antique. J'aurais cru qu'elles allaient monter là comme des balais. Eh bien, ça fait quelques jours qu'elles y sont pas venues, alors peut-être du coup, c'est presque un renouveau pour elles, donc elles s'y plaisent peut-être.
Hein. D'accord, viens voir. Regarde, une ici, une ici.
Oui, je sais.
Là, il y en a même trois.
Ouais.
Elle ouvre l'autre.
T'as vu, en fait, il y a un truc qui s'ouvre et là, ça fait un bruit.
Soir, à la tombée de la nuit, il ne faut plus qu'il y ait de flamme. Appeler...
T'as vu ce que c'est, une épipigère? On peut la prendre. Hein. Vraiment, c'est pas dangereux.
Attends, mais on devrait avancer au coucou, les autres, ça, moi, je ne les vois plus.
Parce que là, la dame a prononcé le mot pastoralisme. Donc là, il y avait des choses à dire sur... sur le pastoralisme.
Ah bah, voilà.
Allez.
Je vais accélérer le pas.
Est-ce que vous pourriez me dire, pour, d'après vous, quelle serait la définition du pastoralisme? Donc en fait, c'est un mode d'élevage extensif qui utilise les ressources spontanées pour le pâturage. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est un peu méditerranéen tout ça. Ça peut être de l'herbe, ça peut être de la broussaille, ça peut être des glands, ça peut être des châtaignes. Donc dans le centre de la France ou beaucoup plus haut, ils ont du mal à comprendre un peu ça. Parce que eux, pour eux, des brebis, elles pâturent dans des vertes prairies d'herbe. Nous, on s'adapte à des paysages différents et à une ressource, voilà. Cette ressource, elle est spontanée, elle est pauvre, voilà.
Comment vous faites résultat pour le foin et le blé que vous faites?
Alors, en fait, nous, on est obligé d'acheter ce foin. On achètera donc l'alimentation, puisqu'on peut pas, on la cultive pas.
Mais vous en achetez moins parce que vous adaptez au...
Alors, on est dans un système économe, je disais tout à l'heure, parce qu'il est basé sur l'extérieur, sur l'extensif.
Alors, voyez le patou?
Oui, l'Australie, oui. La Nouvelle-Zélande.
Il y a le troupeau, on arrive. On est étranger pour lui. Il s'interpose entre le troupeau et nous. Et pour l'instant, il aboie.
Une qui a été agressive, Patoune, la mère de ce que vous voyez là, la mère de lui, là, de Luki. Mais c'était une très très bonne chienne de garde, c'est peut-être la meilleure que j'ai eue. Et elle est devenue agressive, mais parce qu'il y a eu un imbécile qui a fait... Deux imbéciles qui ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Dont un qui était à pied quand la chienne... a fait son travail, il n'a rien compris ou il a voulu se faire plus fort que les autres. Il n'a pas trouvé mieux que de prendre une pierre et de la lui jeter dessus. Donc la chienne, à partir du moment où elle voyait des gens marcher à pied, d'aussi loin que le pouvait les voir, elle y allait, j'avais beau l'appeler, rien ne l'arrêtait, elle arrivait au-devant des personnes d'une agressivité affreuse. Et puis un jour, le troupeau traversait la route, il est arrivé un groupe de cyclistes, et des personnes qui étaient, je pense, largement à la retraite. Et donc, quand il a passé le troupeau, la chienne était mélangée dans le troupeau, il n'a pas vu. Et au lieu d'arrêter son vélo et de laisser croiser le troupeau et de repartir après, je pense qu'il n'était pas pressé à quelques secondes près, la chienne est venue se mettre au milieu, vu qu'avec un pied par terre, il continuait d'avancer à mesure que les brebis s'écartaient. Et la chienne y est allée y aboyer. Et d'un coup de deux pieds, j'étais à 10 mètres, je l'ai vu, il y a balancé un coup de pied là, dans sa gueule. Quoi. Alors là, la chienne, elle n'y a pas sauté dessus, je me demande comment. Et puis cette chienne, après quelques semaines, quelques mois après, que ce soit en vélo, que ce soit à pied, dès qu'elle voyait quelqu'un, elle y partait comme une folle et je ne la contrôlais plus. Moi, le loup un peu plus haut, là où sont les brebis actuellement, à 11h du matin, le loup, je l'ai vu à 30 mètres de moi. Et un jour, là-bas en bas, sous les maisons, un soir à 8h du soir, pareil, il était au milieu du troupeau et il est parti, il était là couché dans un genêt à l'affût. Voilà, donc quand on voit faire cet animal, il est tellement mal. Et chaque fois, il a attaqué le troupeau en pleine journée, avec ma présence, avec le chien. Vous voyez, je suis là. Et bien, lui, il arrivera là-haut, de l'autre côté. Il me prendra une brebis ou deux complètement à l'opposé du troupeau. Le berger ne s'en rend pas compte, le reste du troupeau non plus. Les patous, selon où ils sont, si le vent ne leur amène pas l'odeur, Les patous ne s'en rendront pas compte non plus. C'est un animal qui passe son temps à nous surveiller, à nous observer, et pour essayer d'agir sans aucune crainte. Là où on pourrait s'en rendre compte et où les chiens pourraient intervenir, c'est à partir du moment où il y aurait une meute, où ils arriveraient, ils prendraient en course le troupeau, il y aurait un grand mouvement de panique. Là, bien sûr, on est obligé de se rendre compte qu'il se passe quelque chose d'anormal. Mais quand vous avez un animal qui est couché dans un genêt, là, qui ne bouge pas, vous avez le troupeau bien éparpillé partout, qui mange, une brebis va venir manger à 10 cm de lui, là, qui vous l'attrape, hein, il vous la tue, la mange sur place. Hein.
Il la mange, parce que certains disent qu'il les tue, mais qu'il ne mange pas nécessairement.
Ceci dit, Bruno, il vaut mieux quand même qu'il n'y ait pas de meute installée.
Mais il vaut mieux qu'il n'y ait pas de meute, et qu'il n'y ait même pas de solitaire. Là, c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on passe 3 ans assez tranquille.
C'est quand même joli, hein.
On va enlever le cul.
Les reboisements sur les Gouales, c'est 1880, quelque chose comme ça.
Ça doit être à peu près la même chose. Il y a une politique de reforestation avec des espèces
non. Les Gouales ici, oui, c'est la même période. Là, maintenant, on veut le retour de la nature, mais on ne la gère plus, on laisse faire tout. Mais on va venir à un appauvrissement, ça va devenir quoi? Que des genêts, que des forêts, voilà. Il faut un juste équilibre des choses.
Une cohabitation, quoi.
Et nos cohabitations, tout à fait. Et ce sont ceux qui s'expriment, qui veulent à tout prix le loup, ils savent rien, souvent.
Souvent, ils ne savent pas ce qui se passe sur le terrain.
Sur le terrain, voilà. Donc la charcuterie. Donc j'avais prévu 4, on va commencer par 2. Donc ce sont des fricandeaux, c'est une spécialité du pont de la boucherie Folcher. C'est du fricandeau au vert, aux blettes, vous savez, au vert des blettes.
Oh, voilà.
Donc là il faudrait le couper en essayant de faire, alors peut-être déjà comme ça. Refaire comme ça.